Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée.
Hey, bonne soirée.
Boulevard 102. Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Having met with the owners of Canada over the course of the campaign, it's not for sale, won't be for sale, ever.
Les enjeux qui te concernent.
Je ne sais pas comment le dire, là. Je vais être là en octobre 2026. Je veux un troisième mandat.
Le plus gagnant de la veille. Nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Pas le choix de mettre ma graine de sel là-dessus, là.
Hein? Quoi?
Une graine?
Ben, ça se dit pas du
tout. C'est un grain de sel.
Boulevard 102, bon. Du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir, Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. On n'a pas eu de la température très chaude dans les derniers jours et ça s'est continué aujourd'hui. Je pense que le maximum qu'on ait atteint aujourd'hui, c'est un 13. On nous annonçait un 15, peut-être, comme maximum à atteindre. Ce n'est pas le cas. Minimum de 8 pour ce soir et cette nuit avec de la pluie qui devrait débuter au cours de la nuit, nous mentionne-t-on. Pour ce qui est de demain, vendredi, c'est de la flotte. Des rafales à 50 km/h en matinée avec des températures stables à près de 9 degrés. Pour ce qui est de samedi, de la pluie intermittente, maximum de 8 et dimanche, alternance de soleil et nuages avec un 40% de probabilité d'averse, un maximum de 15 degrés. Ce soir, dans le podcast de Marceau ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Lavoie du Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, on va en savoir plus sur ce qu'est le Grand Défi. On va en savoir plus sur qu'est-ce qui l'a poussé à changer son mode de vie, sa façon de voir la vie. Et on va parler de plein d'autres trucs qui touchent la vie en général. On va philosopher un peu avec Pierre Lavoie du Grand Défi Pierre Lavoie. Merci d'être là, les amis. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et je pèse sur le piton en même temps. Salut!
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Pierre Lavoie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est un privilège de vous avoir ce soir en entrevue, puisque la dernière fois que je vous ai vu, ça fait déjà quelques années, je vous avais vu en Beauce, je ne vous connaissais pas. J'avais entendu parler du Grand Défi Pierre Lavoie, mais vous vous étiez présenté sur les salles. Les planches d'une salle qui s'appelle la Méchatigan, et vous aviez fait une conférence que j'avais adorée et j'avais appliqué certains trucs dans ma vie suite à cette conférence-là. J'avais adoré ce que j'avais entendu de Pierre Lavoie, puis par la suite, bien, je me suis intéressé à vous et à votre carrière. Puis là, quelques années plus tard, bien, j'ai la chance de vous avoir en entrevue. Merci d'être là.
Ben, avec grand plaisir.
Pierre Lavoie, c'est un Saguenayen, ça? C'est un natif du Saguenay?
Oui, ouais, du Bas-Saguenay.
Du Bas-Saguenay.
Puis... Pour ceux qui ne savent pas la différence, là, il y a le Saguenay,
ouais.
Il y a le Lac-Saint-Jean, puis il y a le Bas-Saguenay. Donc le Bas-Saguenay, c'est presque dans Charlevoix. On est vraiment là, accolé là, dans, en Saint-Jean, petit ouais. Village.
Avez-vous c'est... toujours été un athlète, Pierre Lavoie?
Non, pas du tout.
Non,
pas du tout.
Ça vous fait sourire quand plusieurs années après, on vous appelle l'athlète, celui qui fait des Ironman, l'homme incroyable qui est Pierre Lavoie, alors que ça a pris un temps avant que vous commenciez à prendre soin de
votre santé. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard. Quand on a une passion, on y travaille correctement, inévitablement, on progresse. Puis la progression, normalement, chez un athlète, c'est 10 ans.
Ouais.
Quand tu mets à travailler, le nombre d'heures que tu mets ton cerveau avant d'assimiler les mouvements... ton corps avant qu'il se renforcisse, ça prend une dizaine d'années. Après une dizaine d'années, normalement, tu atteins ton maximum. Donc, peu importe l'âge que tu commences. Tu commences à 21, tu atteindras ton pic à 31. Tu commences à 30, tu l'atteindras à 40. Tu commences à 40, ça va être à 50. Tu commences à 50, ça va être à 60. Si tu commences à 60, ça va être à 70. C'est toujours 10 ans plus tard. Donc il n'est jamais trop tard
pour commencer
quelque chose. Puis le...
Vous avez commencé à vous entraîner à quel âge, Pierre Lavoie? Puis pourquoi?
À 21 ans. Ben, d'abord, j'ai fumé. J'étais fumeur pendant 7 ans.
Ouais.
J'ai commencé à fumer à 14 ans. Et moi, j'étais venu dans un milieu défavorisé, là, donc à l'Abbé, au Saguenay. Mes parents avaient divorcé dans les années 70. Et à l'époque, il n'y avait pas de pension alimentaire. Hein. Donc, quand la femme osait divorcer, elle se ramassait avec les enfants. C'est pour ça que les femmes ne divorçaient pas à l'époque. Parce que souvent, la femme ne travaillait pas. Mm-hmm. Et il y avait 5-6 enfants. Si elle divorçait, c'était la catastrophe. Là. Donc, elle endurait. Après, les gouvernements ont commencé à construire des HLM. dans les petites villes un peu partout, les années 70. Puis les femmes pouvaient quitter leur mari pour aller habiter là-dedans. C'est exactement ce que j'ai vécu. Donc, j'ai vécu dans le quartier Saint-Marc, à Bagotville, avec plein d'autres familles monoparentales. Puis c'est ça. Puis donc, dans ces milieux défavorisés, il y a un désavantage. Si ben, t'es pauvre. Donc, j'aurais voulu jouer au hockey, mais ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter un équipement. Elle n'avait pas les moyens de m'inscrire dans un club. Puis on n'avait pas d'auto pour déplacer la poche de hockey. Les gens oublient que pour jouer au hockey, la poche est grosse, là. Ça te prend un auto. Si tes parents sont pauvres, ont pas d'auto, ben ça vient de s'arrêter là pour toi. T'sais. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que le hockey, les gens n'aiment pas s'entendre dire ça, mais c'est un sport d'exclusion. Ça prend des conditions environnementales avantageuses pour pouvoir le pratiquer. T'sais. À moins oui, j'ai joué à l'arrière de chez nous, là, avec nos amis en bottine, non? Ça, tout le monde le faisait, là, mais du vrai hockey, j'aurais voulu, mais je n'avais pas les moyens. Donc, normalement, le milieu défavorisé, c'est encore comme ça aujourd'hui. Les gens ont les moins bonnes habitudes de vie, les gens fument plus la cigarette. Puis à l'époque, c'était social, la cigarette, là. Donc, moi, j'ai fumé, comme tout le monde, là, à 14. J'ai fumé jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, j'ai fait partie de la stat. Parce qu'en 1980, il y avait 40% de fumeurs au Québec. Là, je faisais partie de la statistique québécoise,
Ouais. Mais
la plupart des gens qui fument.
je me souviens des balades en voiture où j'étais incapable de respirer et où il y avait juste un petit filet d'air qui était laissé dans les années 80. Je me souviens des parties aussi de famille durant le temps des fêtes où on s'endormait pas parce qu'on était fatigués, les enfants. On s'endormait dans le salon parce que les yeux nous brûlaient. On n'était plus capable d'avoir les yeux ouverts. À un moment donné, ben, ça brûlait, on se fermait les yeux, puis on partait, puis on se réveillait le lendemain. Ah, effectivement, dans le temps, c'était.
Rappelle-toi, à l'époque, il fallait repeinturer ta maison en 2 ans.
Ouais, ah ouais.
Oui, parce que la cigarette, les murs étaient jaunes. Hein. En 2 ans, tu repeinturais ça en neuf.
Ouais, laver les murs, puis ça coulait jaune. On
Alors,
sent
moi, j'ai
que
fait partie de ce groupe-là. Là, puis à 21 ans, là, j'ai commencé par faire du judo.
ouais.
Et je m'étais blessé en judo. Mon coach avait dit, ah, tu devrais faire de la course à pied pour garder ta forme, parce que tu commences à avoir une bonne forme. Puis là, je m'étais inscrit à la course des Pichoux à Chicoutimi, du carnaval de Chicoutimi à 15 km. Puis ça a commencé comme ça. Puis dès là, après ça, j'ai aimé la course. Puis après ça, j'ai enchaîné avec le vélo. J'avais des amis qui nageaient, j'étais allé à la piscine. Les mêmes amis qui nageaient faisaient du ski de fond. Ben, j'ai commencé à faire du ski de fond. Donc je suivais des groupes parce que ça n'a pas changé aujourd'hui. Il y a un plaisir ami. L'humain, l'enfant, l'adolescent, la personne âgée. Les éléments les plus puissants de la motivation intrinsèque, là, c'est le plaisir et les amis. Quand tu as du plaisir avec tes amis dans un sport, tu vas le faire toute ta vie, là. Tu
Ouais.
dois y retourner au quotidien. T'sais.
Et de là l'importance d'être bien entouré pour pouvoir pratiquer les trucs qu'on aime pratiquer avec eux le plus souvent possible. Parce qu'apprendre à nager, moi je sais nager, Pierre Lavoie, mais pour faire un Ironman, je ne sais pas nager. Est-ce que vous avez pris des cours privés avec des
Regardez, c'est
entraîneurs?
intéressant. Bon. D'abord, le triathlon, je commence, mais je ne suis pas bon. Non. Je nage pas vite, je ne suis pas un bon coureur, puis à vélo, j'ai mal aux jambes quand je pédale. Mais le triathlon est un sport spécial. C'est un nouveau sport qui apparaissait. Il
Ouais.
n'y avait rien de réglementé encore en courant en speedo. C'était un petit peu, c'est un nouveau sport, puis il allait s'éduquer en cours de route. Puis moi, sur les courtes distances, j'étais vraiment pas bon. Non. Mais moi, dans ma famille, à moi, mon grand-père, Julien Lavoie, c'était le champion bûcheron de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis de la Côte-Nord. C'est lui qui coupait le plus de cordes de bois par année au Ciot.
Ah oui.
Oh, chez Price. Donc, puis c'était dans la famille. Il savait le grand Julien, Alain Saint-Jean, c'est un homme extrêmement fort, puis il battait tous les records comme bûcheron, pas la scie mécanique, au Ciot. Donc, j'ai encore des revues là-dessus. Là. Donc, il bûchait 3,83 cordes de bois par jour, annuellement. C'est ça, c'est une moyenne. C'est une journée qui prend des congés. Donc, il bûchait 5 cordes de bois par jour aussi. Hein. Puis donc, moi, je savais dans ma famille, il y avait le genre d'endurance familiale. Mais je n'étais pas bon en sport. Mais je me suis dit, hey, le Ironman, ça c'est comme bûcher une forêt pendant toute une journée. D'après moi, je dois être bon là-dedans. J'avais une intuition. Hein. Et quand je me suis lancé dans la longue distance, là, où j'étais pas bon là, dans la course. Là. Quand je me suis lancé, fait mon premier Ironman à Montréal en 1992, ben, à ma grande surprise, je l'ai gagné. J'ai battu le record du parcours. Donc, j'étais un athlète, mais d'endurance. C'était ça, mes qualités athlétiques. Elle était pas de vitesse. Donc, en natation, l'avantage, dans le Ironman, on fait 4 km de natation, 180 km de vélo, et on finit qu'un marathon, c'est que la natation dure seulement 1 heure, 1 heure et 10. Le vélo dure 5 à 6 heures et la course 3 à 4 heures. Donc, la natation, tu as des avantages, pas tant que ça, si tu n'es pas si bon nageur. Tu pourras te reprendre à vélo. Et quand tu sors de l'eau assez loin, il y a toute une motivation à faire que rattraper, 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 rattraper. Au niveau psychologique, c'est extrêmement puissant. Non? Donc, c'est ça.
Mais est-ce que vous aviez réussi à vous comparer avant votre premier marathon, premier Ironman, est-ce que vous aviez réussi à vous comparer avec les autres avant? Parce que vous dites, je suis arrivé premier, j'étais surpris.
Ah, là, clairement. Non, j'ai pas du tout. D'ailleurs, j'avais jamais couru de marathon de ma vie. Puis il y en avait un, je ne savais pas comment. Puis mes amis disaient, prends garde au mur. Il y a un mur au 32e kilomètre, OK? Au 32e. OK, mais là, si je fais 180 km de vélo avant le marathon, est-ce que le mur est encore à 32? Là, mes amis me disaient, on ne le sait pas. Donc, c'était l'inconnu. Je me fiais à mon instinct que sur une longue distance, c'est pas juste physiologique, c'est psychologique aussi. C'est de toffer la journée, de rester motivé à tenir un rythme jusqu'à la fin. Puis finalement, ben, c'était ça ma force, parce qu'en traversant la ligne, parce qu'il y avait beaucoup d'Américains qui étaient venus des États-Unis faire de la course, puis tu sais, l'Américain, je l'ai quoi, fait à 500 mètres de la ligne, là, puis il a mené toute la journée, jusqu'au temps que je le dépasse. Puis là, bon, je suis le premier surpris. J'avais quand même couru, pour ceux qui connaissent l'Ironman, mon premier Ironman, je l'ai fait 9h22 minutes, là, déjà à 9h30. J'étais un des premiers Canadiens à courir sur 9h30, à ma première participation. Puis quand tu regardais mes résultats, dans des distances plus courtes, je n'étais pas impressionnant. Donc, j'étais vraiment bâti pour l'endurance.
Il devait se demander qui vous étiez quand vous avez remporté cette fois-là.
Je n'étais pas connu du tout, du tout. Je n'étais pas connu. Et ensuite, je suis allé me qualifier pour Hawaï. J'étais allé à Penticton, dans la vallée de Kanagan. On était 2400 au départ. J'ai fini 15e overall, premier Canadien. Et là, les Canadiens m'ont repéré. OK, c'est un des meilleurs Canadiens qui s'en va au Ironman d'Hawaï. Effectivement, je finirai deuxième Canadien au classement général. Donc, c'était surprenant tout le long comme ça. Donc, fumeur, sédentaire, à passer à devenir un athlète de haut niveau. Ensuite, j'ai eu une carrière professionnelle parce que j'ai atteint les niveaux. J'ai couru sous les 20, dans les 25 meilleurs à Hawaï. Donc, j'ai pas eu le choix de passer professionnel. Donc, j'ai couru le circuit mondial professionnel pendant 7 ans. Donc,
puis, est-ce qu'on peut vivre une belle vie quand même quand on est un athlète professionnel? Est-ce que où on continuait la grande pauvreté?
Non. Le seul qui a vraiment réussi, c'est Peter Reed, qui était d'ailleurs un Québécois de Mont-Tremblant, qui a gagné 2 fois l'Ironman d'Hawaï. Lui, il a réussi à faire quelques millions avec ses titres. Mais l'Ironman, tu peux pas durer si longtemps. Non? Ça demande tellement d'énergie au corps. Et de discipline, ton corps finit, ta batterie finit par baisser. Là. C'est comme un auto. Un auto électrique, tu recharges, à un moment donné, tu amendes pas mal, à un moment donné, tu la recharges full, mais elle n'est plus aussi efficace qu'au début. Donc, c'est ça, la batterie corporelle, on l'a en nous, puis il faut bien l'utiliser. Mais quand tu décides de t'en aller dans l'extrême, tu vas le faire au détriment que ta batterie, un jour, quand tu arrêteras, ben, elle ne sera plus jamais à 100%, elle va peut-être à 90 à 95. Là. C'est ça. Mais ça, ça, on est prêt à payer ce prix-là, là. Parce que même à 95, on est à part les autres. On est quand même, on atteint des niveaux tellement élevés qu'on peut baisser d'une coche, puis on a encore beaucoup de plaisir. Là.
Mais quand on fait des Ironman, je veux dire, ça coûte de l'argent, vous devez vous financer. Vous faisiez comment pour financer au travail?
Là, c'est l'avantage d'une région. OK? Ouais. J'aurais habité à Montréal, j'aurais pas trouvé de financement. Mais dans une région, il y a un sentiment de fierté qui s'installe de la population autour de leur athlète. Et vu que je performais à l'international, donc j'ai reçu du support financier pour être capable de financer mes voyages et tout ça, parce que je travaillais en parallèle, moi. C'était professionnel. Quand j'arrivais sur le circuit professionnel, c'était des professionnels. Je faisais que ça. Moi, je travaillais 40 heures. Donc, je faisais les deux. J'étais capable de faire les deux. Mais je suis un hyperactif. Je suis un TDAH, moi. Je suis capable de faire 3-4
Mais en même temps, il peut-tu avoir une corrélation avec l'enfance que vous avez eue qui n'était pas nécessairement facile dans un milieu pauvre?
Carrément. Puis ça a pris des années avant de comprendre. Aujourd'hui, c'est pour ça que je le partage aux jeunes. T'sais. Aujourd'hui, la valeur la plus importante pour réussir dans la vie, là, c'est la persévérance. Puis la persévérance, c'est jamais abandonner. Puis donc, je leur dis, vous savez, quand tu es incapable de courir un marathon, ben, tu marches. Si tu es incapable de le marcher, ben, tu rampes. Parce que même en rampant 42 km, si tu n'abandonnes pas, tu finiras par traverser la ligne. Je leur explique, c'est ça la persévérance. Ils étaient de la misère à l'école. Puis, t'es au secondaire, c'est pas facile. T'as des échecs, t'as des réussites. Tes parents te supportent, tes enseignants. Ton meilleur ami, lui, c'est facile. Dans toutes les matières. T'arrives en secondaire 4, les sciences et les maths. Ton meilleur ami, lui, c'est aucun problème. Toi, t'as des échecs. T'as des grandes difficultés. Mais t'abandonnes pas. T'as toujours eu de la difficulté à ton secondaire, mais t'as jamais abandonné. Tu continuais. Tu arrives à la fin de ton secondaire 5, tu vas le réussir avec très grande difficulté. Ton meilleur ami va le réussir avec mention. Donc, quand les deux vont venir appliquer au grand défi, lequel des deux je vais embaucher? Le persévérant. Pourquoi? Parce que je dis aux jeunes, pour bien réussir ta vie, ça te prend au moins 200 outils dans ton coffre à outils. Puis être bon à l'école, c'est un outil. Il t'en manque 199 autres. Par contre, il y a des outils spéciaux. Il y a des outils qui, eux, servent dans toutes les conditions, dont la persévérance. Donc, si tu ne baisses jamais les bras, pourquoi je veux t'embaucher? C'est que mes dossiers les plus difficiles, c'est à toi que je vais les donner parce que je sais que tu ne baisseras jamais les bras. Donc, cette valeur-là, tu vas la développer comment? Dans la difficulté. Donc, c'est une bonne nouvelle que tu as de la misère à l'école. Tu es en train de développer l'outil le plus important de ton coffre. Mais il ne faut pas que tu abandonnes, par contre. Et comprendre que ce n'est pas juste des aptitudes qui font qu'on réussit dans la vie, c'est une attitude. Puis ça, moi, je regarde, là, parce que j'ai atteint un niveau des pyramides assez élevé dans la société, là. Je les regarde, ces gens-là. Là. Hier, j'étais avec Ricardo, l'arrivée. Excusez-moi, c'est le même pattern que moi. Là. Ricardo, c'est pas un surdoué. C'est un persévérant. C'est un gars qui a de l'entre-gens, qui aime les gens, il donne du temps. Il peut pas faire autrement que réussir. Ça, puis c'est pas parce qu'il était bon à l'école qu'il réussit, pas du tout. C'est sa personnalité. Donc, quand tu vas passer ton entrevue, ils vont te demander, c'est quoi ta valeur principale? Ah, dis-moi, je suis un persévérant. Ah, OK, je veux t'avoir dans mon équipe. Je t'embarque comme rameur. Le métier, tu vas l'apprendre. Donc, ça valorise les jeunes pour pas abandonner. Donc, dans le Ironman, moi, c'est exactement ce que je vivais, mais moi, je m'étais déjà préparé à ça, cette résilience de ne pas être comme les autres, de ne pas pouvoir aller faire du ski alpin, de ne pas aller au cinéma, de ne pas pouvoir jouer au hockey. C'est pas le fun quand tu le vis, là, mais ça te prépare à la vie. C'est
Ouais.
aussi simple que ça.
Mais.
Là, tu arrives plus tard, il y a un défi devant toi.
Ouais.
Toi, si tu pars par-dessus, puis ton voisin, il voit l'Everest. Pourquoi qu'on voit différemment si ça dépend de ton vécu?
Ouais.
Donc,
Mais.
c'est important de vivre des échecs. C'est important de vivre des difficultés. Si on est élevé dans la ouate, ça ne fait pas des enfants forts.
Ouais.
Fait que...
Mais comme vous dites, quand on le vit, ça, justement, que les amis, bon, ils ont le beau linge sur le dos, ils peuvent faire les activités qu'ils désirent, s'en vont au Mexique quand on est jeune, ils s'en vont au Mexique avec leurs parents et tout ça. Puis toi, ben, tu dois continuer à avancer au travers des autres. Quand vous faisiez vos Ironman, y avait-tu un certain questionnement en vous parce que vous faisiez les Ironman, mais vous deviez travailler aussi pour gagner votre vie, tandis que les autres avaient juste à s'entraîner et on les payait pour s'entraîner. Tu sais, c'est comme si vous travailliez, c'est comme si vous rushiez deux fois plus que les autres constamment.
Mais je me trouvais privilégié. J'avais des gens qui me supportaient, parce que, oublie pas, je viens d'un milieu défavorisé. Ma mère était sous l'aide sociale.
Ouais.
C'est moi qui allais changer son chèque avec mon vélo à la Caisse populaire Saint-Marc. 325, je me rappelle toute ma vie. Là. 325 par mois. C'est ça son chèque qu'on avait. Quatre enfants. Donc, c'est ça ma réalité. Donc, quand tu te fais supporter financièrement pour courir à l'international, ça ne te dérange pas de travailler 40 heures à côté. Moi, tu ne jalouses pas les autres, tu dis, je suis chanceux. Je suis privilégié. Puis en plus, ça fait de moi une personnalité publique, sportive. Mais ça, sans le savoir, ça allait servir à la suite. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'étais dans l'usine. J'étais un mécanicien de métier, là, puis opérateur d'usine à porter papier. J'étais un papetier. Et mon chum, il me disait, pourquoi tu continues? Tu es allé à Wii 6 fois, là. J'ai dit, je pense qu'on va me servir un jour. Pour le moment, je ne le vois pas encore, mais mon instinct me dit qu'un jour, ça va me servir. C'est ça. Quand mes enfants ont été atteints d'acidose lactique, là, on a vu tout l'athlète sortir public. Puis maintenant, c'était plus le vélo qui était important, c'était la cause. Puis là, je l'ai pris comme un contre-la-montre. Puis c'était le même cerveau. Mais au lieu de réussir une course, c'était de réussir cette course pour sauver mes enfants. J'avais été formaté. J'avais été formaté psychologiquement. Donc, tout ça, c'est drôle. Tu dis, finalement, tous ces moments ont été importants pour ce que je suis devenu aujourd'hui. T'sais. Quand je dis aux jeunes, t'as de la misère à l'école, je te dis, c'est une bonne nouvelle. Mais lâche pas, tu vois, la suite, tu vas te la faire. Mais lâche pas, parce que c'est important.
Vous avez accueilli comment cette nouvelle-là quand vous aviez appris que vos enfants avaient l'acidose lactique?
Ben, au début, on est impuissant parce que moi, je suis un gars d'action. Hein. Donc, absolument, quand il y a un problème, je suis pas le style à dire, ah, il n'y a rien à faire, on ne sera jamais capable. Ben, je suis plutôt dire, t'as vu, il y a une solution. On va y travailler. Il y a sûrement quelqu'un qui connaît quelque chose. Je suis plus en mode, moi, voir le verre à moitié plein, passer en mode action. Comme dans le COVID, là, moi, je disais aux gens, grâce au COVID, grâce au COVID, puis grâce au COVID. Puis là, quand on a mis nos employés dehors, on ne sait jamais. Et ça va leur faire du bien. C'est le premier gros défi qu'ils n'ont pas vécu. Cette génération-là, ils n'ont pas encore vécu d'épreuves. Là, ils en vivent une.
Ouais.
Ils vont sortir grandis de ça. C'est important de vivre. Puis là, donc, moi, je voyais plus ça positif. Mais quand est arrivé Laurie à atteindre la maladie, là, j'étais impuissant. Je n'étais pas médecin. J'étais pas généticien. Je n'étais pas capable d'affaires pour amasser des fonds. Pas de contact, tu n'as pas de réseau, tu n'es pas petit. Fait que donc, j'étais désarmé. Donc, j'ai été passif. Ce que j'ai fait, par contre, je me suis impliqué, je suis rentré président de mon association régionale pour venir aider la cause, en disant comment je pourrais aider. Et j'ai essayé de sizer le problème. Donc, la maladie est inconnue chez nous. Elle est seulement dans notre région. Ça nous concerne. Le taux de porteur est d'une personne sur 21 dans la région de porteur, puis les gens ne savent pas. Un jour, je vais leur dire qu'ils sont aussi concernés que moi. J'attendais juste le bon moment pour le faire. Mais ce qui était difficile, c'est que les parents qui étaient assis devant moi allaient perdre leur enfant dans les prochains mois, ou ils venaient toujours de le perdre. C'était dur de leur demander d'aller à la guerre. Ils n'avaient plus à gérer leur situation quotidienne. Donc, il fallait que je maintienne le côté positif dans ma tête. Il faut que je fasse avancer la cause, puis il faut que je sauve mon enfant. T'sais. Donc, ce qui va se produire, c'est que je m'implique avec mon association, mais je reste passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas régler le problème, c'est les médecins qui vont régler le problème de ma fille. Puis quand elle est décédée à 4 ans, je roulais à vélo, parce que moi, à vélo, je réfléchis toujours. Là. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pu l'aider? Ah non, je n'étais pas médecin, je n'étais pas généticien, ni un homme d'affaires, donc j'avais toujours le même constat d'impuissance. Mais après, quand on décide d'avoir un troisième enfant, parce que notre premier fils, mon père, il n'est pas atteint de la maladie. Quand on a eu notre troisième enfant, on a passé des tests et tout ça pour s'assurer qu'il est en santé, puis il va naître aussi à temps. Donc là, vu que j'étais président et que j'étais le père d'un enfant et qu'on avait un historique où tous les enfants mouraient avant 2 ans, là, OK, j'ai dit, leur enfant, il va mourir comme ça, ça. On est de le vivre, là. C'était pas le fun, non? On savait très bien dans quel chemin qu'on allait passer. Et là, à un moment donné, l'instinct de survie qu'on appelle, là. Là, je me souviens vers mon fameux coffre à outils, là. Quand je te disais tantôt, le 200 outils pour réussir ta vie, là. Puis j'ai trouvé un outil extraordinaire qui était là. Je le voyais tous les jours, mais je ne m'en étais pas rendu compte. C'était mon vélo, qui me servait à gagner des médailles, puis nourrir mon ego, qui maintenant allait me servir à créer un événement sportif. J'étais un athlète, je faisais des courses qui duraient 9 à 10 heures. Je me suis dit, le problème est dans notre région. Le gène, les gens qui portent le gène sont autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'avais calculé que le tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était 650 km exactement. J'ai pensé de le faire en une journée. Je suis capable, j'avais calculé, oui, s'il faut jouer la 30. Tant que de moyenne, je suis capable de le faire en 24 heures. Donc, j'ai dit, OK, je vais créer un événement. Au début, ça s'appelait le défi acido-lactique. Mais le nom n'était tellement pas connu. Les gens déformaient le nom. Mon comité dit, Pierre, on va mettre ton nom vu que tu es connu. Ça va attirer l'attention. Tu pourras passer ton message. Donc, c'est pour ça que mon nom est accolé à l'événement. Puis, il me suit encore depuis ce temps-là. J'ai accolé mon nom. Puis, les gens, c'est quoi? Ah, c'est quoi cette maladie-là? Ah oui, c'est une maladie régionale. Non, il y a une personne sur 21 qui est porteur. Dans la région, OK, wow. Puis là, c'est la maladie qui tue plus d'enfants chez nous. OK, on ne le savait pas, ben aidez-nous. C'est tout. C'était ça. Et là, j'ai reçu de l'aide. C'était des tournois de golf qui nous donnaient des fonds. Hein, je vous le dis, là, c'était. Là, on a commencé à nourrir la recherche, pas faire avancer la recherche. Mais mon fils est décédé quelques mois plus tard à Sainte-Justine. Là, les gens ont réalisé, parce qu'ils l'ont connu, Raphaël, ils l'ont vu, là, il était dans les médias avec moi, il était dans mes bras. Puis je leur disais, il peut mourir n'importe quand, puis il est mort. Il est mort quelques mois après mon premier défi. Là, les gens ont dit, OK, c'est sérieux. Et là, la deuxième édition, parce que je l'avais annulée, j'ai réfléchi, je ne peux pas arrêter, là. Les autres enfants, j'étais président, puis les autres enfants qui naissaient mouraient aussi. Je ne peux pas les abandonner. Fait que je suis resté président, j'ai créé un deuxième défi, et là c'était une région complexe s'est soulevée, là. J'ai ramassé un quart de million en 24 heures. C'est ça. Fait que
Mais
j'ai dit, OK.
personnellement, continuer à avancer alors que vous aviez deux deuils, un à la suite de l'autre, ça devait être juste hallucinant, là. Je comprends que vous aviez votre vélo pour vous sortir un peu de votre zone, mais je veux dire, continuer d'avancer, faire des entrevues avec les médias alors que vous êtes en deuil carrément. J'imagine que vous avez votre conjointe aussi que vous deviez consoler. Vous deviez être là pour vos deux autres enfants aussi.
Regarde, aussi, je me suis posé cette question-là, mais là, j'ai compris le sens de la guerre. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi les gens décident de se lancer en guerre, des Américains qui partent des États-Unis, puis qui sont bien quelque part, puis ils s'en vont, là, ils vont se faire tuer. Mais non, on ne fera pas de conflit, là. Quand tu passes en mode instinct de survie, où là, la situation est dramatique et tu dois défendre quelque chose d'important, ta famille ou qu'elle est menacée. Ton cerveau, il y a des mécanismes dans ton cerveau. Pendant que tu es en train de combattre l'adversité, tu t'apitoies pas sur ton sort. Donc, je dis aux gens, au lieu de t'apitoyer, combat la situation. Puis pendant que tu la combats, tu développes des compétences, l'adrénaline, l'endorphine, tout ça se met en ton cerveau et ça crée des choses qui fait que tu sens au moins à l'intérieur de toi que ça sert à quelque chose. Au moins, oui, ils sont partis, mais tu es en train de te battre pour plus que jamais que ça revienne. Et ça, c'est une énergie là, quotidienne, là, inépuisable là, que tu as au quotidien. Je me rappelle, ma blonde disait, écoute, les psychologues disent que tu vas peut-être faire une dépression parce que là, au deuxième, je dis, non, je ne peux pas faire la dépression, là, mais je suis en train de me battre. Là. Dans la bataille, au contraire, je me lève le matin, j'ai goût d'aller à la guerre tous les matins, toujours en train de réfléchir comment je fais avancer mes pions, parce que tant que je réussis, j'aurais pas réussi, j'aurais l'énergie pour continuer. C'est inacceptable la situation et ça doit changer. Donc, c'était ça. Puis là, j'ai compris que quand un pays est menacé par un autre, là, tu dois défendre ton territoire, ta famille. C'est ce mécanisme qu'on a en nous. L'humain, il a ça en lui. C'est endormi parce qu'on est confortablement maintenant dans une société. On n'a pas de problème d'alimentation, on n'a pas de problème de sécurité. L'humain, ces mécanismes-là sont là, là. Ils n'ont jamais été réveillés, là, parce que, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a de dangereux de rester au Québec? Il n'y en a pas de danger, là. Mais quand tu as une menace, là, tu vois tous les comportements humains qui changent. Puis c'est cette drive que tu peux avoir à défendre une cause ou à jamais baisser les bras. C'est ça. C'est ma seule explication.
Mais vous avez vécu votre deuil de cette façon-là?
Carrément.
OK.
Carrément. Et par ça, c'est pas fini, là. Donc, je continue, je fais des défis, on finance la recherche, on découvre le gène en 2004, en 2003, excusez. Puis dès la découverte du gène, je vais rallier les maladies régionales, puis je vais partir un mouvement pour le dépistage génétique. Le dépistage, je vais aller essayer de convaincre le ministère de la Santé d'instaurer le premier dépistage génétique populationnel au monde. On veut l'avoir, je veux que ce soit chez nous, on le mérite. C'est non éthique de ne pas nous dépister, puis là, je connais ça. Puis moi, je ne suis pas pire des chiffres, j'ai une mémoire des chiffres. Je sortais toutes les maladies avec les taux de porteurs. Finalement, je vais réussir à mettre en place, à le faire passer au niveau régional, ce dépistage qui est encore en place aujourd'hui, pour que des couples comme moi puissent savoir avant de procréer s'ils sont porteurs, pour éviter le problème que nous, on avait vécu deux fois. Puis les autres maladies, thyroïdie, attaque Charlevoix-Saguenay, polyneuropathie, acidose lactique, fibrose kystique, cystinose, mucolipidose, syndrome des Zellweger, ces maladies-là, là, sont dans la même situation que moi. Là. Les couples méritent de le savoir avant de procréer. Puis ça prend juste un programme de prévention qui ne coûte rien à passer. Non? Donc, j'ai réussi à l'obtenir. Et par la suite, ben là, quand on a découvert le gène, moi j'avais 40 ans, ma femme avait 39. On essayait depuis 3 ans d'avoir d'autres enfants. Puis on ne voulait pas que ce soit moi, là, parce qu'on était porteurs tous les deux. On ne voulait pas avoir un troisième enfantin. Là, ça a été le bout. Et que là, quand on a découvert le gène, on dit OK, on peut se rassier ensemble. Donc, Lynn tombe enceinte de moi. On avait une chance sur quatre qui soit atteinte. Et à la 10e semaine de grossesse, on fait la biopsie chorionique. Puis on a un résultat à la 11e. Donc, à la 11e, Sainte-Justine nous a téléphoné que notre enfant est en santé. Puis aujourd'hui, je viens d'aller nager avec elle, là. Elle a 21 ans, elle rentre à l'université Laval, à Québec. Elle est née grâce à la découverte du gène. Et quand je regarde toutes ces années où on n'a pas baissé les bras, on a gardé le sourire, puis on a plutôt construit, détruit avec ce qui nous arrivait. Mais on a notre récompense, mais c'est notre fille. On a fermé la boucle avec l'acidose lactique. Puis aujourd'hui, quand je regarde le grand défi Pierre-Lavoie, où tous ces cubes énergie qui se font chaque année depuis 17 ans dans les écoles du Québec, où les jeunes maintenant ont 27 ans, puis le médecin qui te recoue le bras a dit, ben Pierre, j'ai fait des cubes énergie quand j'étais jeune, mes patients maintenant, moi, c'est la prévention avant la pilule. Ça me rassure. Puis je me dis, l'héritage, le rire Raphaël, c'est le grand défi Pierre-Lavoie, c'est tous les cubes que les enfants ont fait. C'est ça leur héritage. Si Raphaël ne serait pas né à atteindre l'acidose lactique, tu ne me passerais pas en entrevue aujourd'hui. Il n'y aurait pas de grand défi. Il n'y aurait pas de médecin qui prescrive la marche. Il n'y aurait pas de cyclistes qui pédalent le mille qui auront mis 37 millions dans les écoles. Il n'y aurait pas 250 projets de recherche de financiers à date par ma fondation. On a pris quelque chose d'extrêmement négatif, on l'a transformé en mouvement social. Juste par l'attitude. L'attitude vis-à-vis une épreuve où tu ne baisses pas les bras, tu la combats, les gens embarquent dans ta chaloupe. Moi, je ne suis pas médecin, mais les médecins sont dans ma chaloupe. Je ne suis pas un enseignant, mais les enseignants sont là aussi dans ma chaloupe, puis il faut avancer. Donc, ce mouvement social qu'on a créé, c'est pour que un jour, le Québécois agira d'une façon responsable envers sa santé, donc remettra les mains sur le volant ou retardera la maladie de 7-8 ans, comme les pays scandinaves. On pourra dégager cette marge de manœuvre qui sera investie dans les vrais malades, ceux qui naissent avec des maladies, donc les maladies génétiques. Donc, au Québec, il y a 850 maladies génétiques orphelines. Pourquoi on les appelle les maladies orphelines? C'est parce qu'ils sont orphelins du système de santé, qui, lui, est organisé et préoccupé à guérir des maladies qu'on pourrait éviter par des comportements responsables. 8 personnes sur 10 dans les hôpitaux du Québec présentement, là, ce sont des maladies développées par des comportements. Donc, ce n'est pas quelque chose de génétique. Donc, le jour qu'on intégrera la prévention, notre système de santé, premièrement, soit pérennisable et soit beaucoup plus égalitaire. T'sais. Donc, mais il va falloir que le Québécois amène sa contribution. Et ça, c'est retarder la maladie, c'est plus l'État qui peut rien faire, c'est l'individu. Donc, tu vois, toute ma conviction, tout est attaché dans ma tête. C'est juste un gros bon sens. Je suis patient, moi. Je suis comme un Ironman. Je sais que je suis au point 50 mètres et que il y a des étapes, mais il faut jamais que tu baisses les bras. Puis un jour, tu finis par t'abandonner.
J'ai le goût de vous achaler. Vous êtes un élément extrêmement positif pour notre société. Votre nom est connu à la grandeur du Québec et partout ailleurs pour dans le monde, dans le merveilleux monde du sport aussi. J'ai la chance de rencontrer dans mon métier plusieurs politiciens, le personnel politique et tout ça. Je sais comment ils pensent. Quand ils croisent un Pierre Lavoie, je crois que ces gens-là doivent espérer qu'un jour il y ait un Pierre Lavoie dans leur équipe. Vous vous êtes fait approcher au municipal, au provincial et au fédéral. Je suis pas mal persuadé de ça.
Oui, tous les partis, tous les
Ouais.
partis.
Et pourquoi Pierre Lavoie fait pas le grand saut pour justement tenter de changer les choses en amont?
Vais te l'expliquer. Bon, d'abord, mon modèle, pour moi, ça a été l'environnement. Quand j'ai parti du Grand Défi en 2009, il y avait à côté de moi un groupe qui, eux, avaient commencé avant moi, l'environnement. Donc, ça avait commencé par David Suzuki, qui a sensibilisé le Canada au complet à l'environnement, les entreprises et tout ça. Par la suite, on a vu Stéphane Guilbeault, qui est arrivé. Puis a commencé à un gars intelligent, qui passait des messages forts. On l'écoutait. On le voyait trop souvent, comme souvent on le voit trop souvent. Mais bon, ça fait partie de la démarche. On sait qu'à des fois, on est allé le voir. Mais bon, l'important, c'est le même clou qu'il faut cogner. C'est important. Et à la fin, on a fini par comprendre qu'on est en train de scraper la planète. Donc, l'humain, à ce moment-là, quand il a compris qu'on scrape la planète, il est prêt à accepter des mesures contraignantes. Donc, moi, ma job, quand je fais les grandes marches à Montréal, puis il y a 10 000 personnes derrière moi, là, j'ai une vidéo là-dessus, je l'arrête. Regardez derrière moi. Là. Lui, c'est un péquiste, lui, c'est un fédéraliste, lui, c'est un séparatiste. Vous comprenez? On est dans un mouvement social. Puis, tu n'as pas de couleur politique. Toi, ta couleur, c'est le mouvement que tu as créé. Puis, il faut que tu te rendes jusqu'au temps où que les gens vont être prêts à accepter la mesure contraignante. Là, l'État vient mettre sa mesure. Et il n'y a pas de risque de se faire mettre dehors aux prochaines élections. Le danger, quand tu essaies de demander aux politiciens de faire le changement, puis quand les gens ne sont pas prêts, ça devient populaire. Et là, ils n'osent pas le faire. Donc, tu n'avances pas. Donc, dans le dépistage génétique populationnel, j'ai utilisé la même stratégie. D'abord, je vais aller voir, je te compte des vraies affaires, Michel Bureau à Québec, pour le sensibiliser. Lui, c'est le sous-ministre de la Santé. Okay? Et c'est lui qui était le responsable de la génétique. Un pédiatre de formation spécialisé en fibrose kystique. Bon. Donc, je le rencontre, j'essaie de le convaincre. Il me dit, Pierre, on n'a pas d'argent pour la prévention. Puis les éthiciens sont contre toi.
Les quoi?
Les éthiciens. L'éthique. Parce que moi, quand j'ai commencé à parler de dépistage génétique, là, on est en 2000, on a décrypté le génome au complet. Et là, les éthiciens sortaient mondialement en disant, oh, là, on est capable d'aller voir dans votre ADN. Vous avez des défauts génétiques. Vous serez peut-être plus assurable, plus employable. Il faut prendre garde ceux qui veulent avancer trop vite. Puis moi, je claque, je sors, OK, je veux un dépistage populationnel. Et là, ils vont me sortir en disant que, là, ils ont écrit 3 pages dans le devoir, là. Le comité bioéthique régional de ma région, pour dénoncer ma proposition, eux, ils disaient que c'était de l'eugénisme, que c'était du nazisme, et que je voulais créer des races parfaites avec écrit toi. Là, je me ramasse à Pierre Maisonneuve, à Radio-Canada, à me défendre avec le président du comité bioéthique régional, Yves Bolduc.
Oh boy. OK.
Ouais, en débat. Mais je l'ai mangé dans l'entrevue,
Ouais.
OK? Après, je l'ai appelé. Là, il dit, Yves, on ne chicanera pas comme ça dans les médias. Tu sais que je vais le faire, le dépistage. Si vous ne le faites pas dans le système de santé, je vais le faire moi-même. Je vais faire 2 rides de bicycle, je vais financer le programme, puis je vais le faire moi-même. Ça ne va rien coûter aux gens. Mais vous devez intégrer ces tests-là pour qu'un jour, on puisse dépister les 100 maladies graves débilitantes au Québec pour faire de la vraie prévention. Il faut faire un pilote. Donc, tout ça pour dire que le Michel Bureau, il veut pas. Parce qu'il y a de l'opposition. Là, je traverse le parc de Laurentides. Je reviens chez nous. Ça, l'avantage de traverser le parc de Laurentides, c'est qu'il y a 200 km d'épinettes puis de lacs. Puis dans la nature, l'humain, il réfléchit. Il n'y a pas de distraction dans le parc. Tu es dans la nature. Moi, c'est là que je trouve mes meilleures idées. Là. Quand je traverse le parc, je reviens chez nous, je pars de chez nous. Je me suis dit, OK, parce qu'il est convaincu que je suis seul à y croire, m'a rallié la population. Je suis allé voir TQS, un de mes chums qui était réalisateur. Je lui ai dit, écoute, faut que tu me fasses une petite pub de 30 secondes sur l'acidote lactique, les enfants, j'ai des photos et tout ça. J'ai trouvé une tonne dans mon pont roulant, hein, à l'usine, puis écoute ça, là, c'est super cool. J'aimerais ça que tu écoutes la tonne. Là, écoute la tonne, là, puis là, j'y raconte. Pendant que la tonne joue, j'y raconte un peu les images que je veux qu'ils mettent. Là, le réalisateur se met à pleurer. Il dit, OK, bien, j'ai tout compris. Il va me produire quelque chose, là. On chute ça à la TV. Là, j'ai dit à la population, vous savez, dans la région, il y a beaucoup de maladies héréditaires. Finalement, c'est faux. Il y en a moins qu'ailleurs. Mais celles qu'on a, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de gens qui sont porteurs. La tyrosinémie, il y a une personne sur 19 porteurs de la tyrosinémie. L'acidose lactique, une sur 21. La polyneuropathie, une sur 23. L'attaque Charlevoix-Saguenay, une sur 23. La fibrose kystique, une sur 15. Donc, dans la région, une personne sur 4 est porteur d'une de ces maladies-là. Donc, on est une population à risque. Donc, c'est devenu non éthique de ne pas dépister la population du Saguenay-Lac-Saint. On mérite un dépistage. Donc, si vous êtes d'accord, allez dans les super vidéos, là, de la région, allez acheter mon petit bracelet bleu en caoutchouc. Il est comme celui d'Armstrong que je viens de voir aux États-Unis, lors du Ironman de Lake Placid. Là. Puis, c'est pas les bracelets qui sont sur Québec, là. C'est le mien. Le bleu, les bleus, parce que c'était des bleus. Il dit, achetez-le, puis porte-le parce que je veux le voir. Je veux un mouvement social. On est vendu 100 000 en 2 mois. La moitié de la population l'a acheté. Puis quand j'ai traversé vers Michel Bureau, là, la deuxième fois, il m'a dit, oui, Pierre, on est d'accord, on va de l'avant. J'avais compris que quand tu rencontres un ministre ou un sous-ministre, il ne t'écoute pas, il ne te regarde pas, il regarde pas de son épaule combien de gens qui t'appuient. Puis quand il voit une armée, tu as de l'influence sur lui. Donc, pour réussir à atteindre tes objectifs, tu dois rallier les gens derrière le gros bon sens. Quand tout le monde est d'accord, là, l'État met en place. Et pour les saines habitudes de vie, ça va passer par un temps d'arrêt, un mandat d'initiative. Puis ça s'en vient. Je vous le dis, d'ici maximum 1 an, tout va s'arrêter et on va revoir nos modèles. Ce n'est pas la CAQ qui le fait, c'est le prochain parti qui va prendre le pouvoir.
Okay. Mais est-ce qu'un jour, vous ouvrez la porte à vous lancer en politique?
Je préfère l'influencer. Est-ce que je vous
L'influencer.
donne un exemple? 2 exemples. Quand j'ai parti le grand défi, c'était les libéraux. Okay? Par la suite, le PQ a pris le pouvoir. Ensuite, les libéraux l'ont repris. Après ça, c'est la CAQ. Puis là, le ministre de la Santé, il faut que j'y parle. Là. Puis là, ils sont différents. Puis ça m'a donné une couleur. Tu dis, là, il faut que je l'appelle. Il ne veut pas te rappeler. Là, parce que t'es... Mais quand tu as une cause sociale, tu peux appeler n'importe qui, n'importe quelle maire. Tu peux parler à peu près. Puis là, vu que tu es au BNL, tu n'es pas régi par le lobbyisme. Donc, je peux appeler. Donc, je peux faire avancer mes dossiers. Quand est arrivé le lab école, hein, on est parti de lab école. Et là, c'est qui a lancé le lab? C'est les libéraux. Et là, ils ont perdu le pouvoir. C'est la CAQ qui a pris le pouvoir. Là, normalement, quand ce n'est pas ton projet à toi, qu'est-ce qu'ils font le parti? Ils tirent la plug. Non, non, ce n'est pas notre projet à nous, c'est les libéraux. Non, pourquoi ils l'ont continué? C'est parce qu'il y avait Ricardo, Pierre Thibault, hein, puis Pierre Lavoie. Et là, les gens qui étaient là, ils n'étaient pas d'une couleur politique. Il y avait une cause sociale importante, puis les Québécois croyaient ce qu'ils faisaient. Fait que tu ne touches pas à ça, laisse-le aller jusqu'à la fin. Puis on vient de finir notre mandat, là, on l'a annoncé hier, c'est terminé, puis on a fait la job.
Puis que
Donc,
pas.
tu sais, c'est plat, on finit par les comprendre, on dit. On est mieux d'être en dehors de la politique, proche de la politique, puis de l'influencer.
Puis que pensez-vous du lab école maintenant?
L'école, il a livré la marchandise. Et contrairement à ce que les gens pensent, oui, les écoles ont coûté 15 % plus cher, mais c'était des laboratoires. Quand tu construis le premier avion, là, ça coûte cher pas mal. Parce qu'en matière de test, tu mets les senseurs partout, tu mets du monde qui ont réfléchi, le fuselage, OK, non, on fait plus gros, plus grand, non. Mais c'est normal qu'elle coûte un peu plus cher. Après, c'est important, c'est sortir les données. Donc, il y a 9 publications qui sont sorties de ces écoles. Les cours d'école idéales, le mobilier idéal, l'architecture idéale, la nutrition idéale. Et là, quand tu veux refaire ton école, tu peux prendre une publication, dire, OK, moi, j'aimerais ça intégrer l'alimentation dans mon école. Pas obligé d'être une école neuve, là. Tu sors les publications. C'est ça que ça servait le lab. Là, ça nourrit l'espace public, les écoles, parce qu'au Québec, il y a 40 milliards qui seront investis dans les 15 prochaines années en reconstruction du scolaire. Donc, parce que les écoles ont 60 ans. C'est important de faire un temps d'arrêt, puis réfléchir, puis dire, OK, quel genre d'école on a besoin aujourd'hui, là? Puis le même, puis les recommandations qu'on a fait hier, là, le même processus va être recommencé dans 5 ans. Pourquoi? Parce que la société aura changé. Qui aurait dit que les écrans seraient un problème si grave? En 2018, il n'y avait aucun problème d'écran chez les jeunes. Là, c'est une catastrophe, là. Et voilà, si on aurait à repenser l'école secondaire, là, il faudrait considérer les écrans. Oui, donc, c'est pour ça que la société change, l'école, elle ne peut pas s'arrêter dans le temps, elle doit évoluer en fonction de la société. Puis on a la chance de tout les refaire, ça va durer de 15 à 20 ans. Mais là, suivons la société, faisons évoluer les écoles. C'est pour ça que c'est important de mettre des experts. Puis nous, on était en dehors, on était à part, au BNL, bénévole. Huit ans de bénévolat, là. Je disais souvent, une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, hey, on aimerait ça que tu sois porte-parole, puis on a une cause. Ouais, puis là, on dit, on paye. Non, je ne suis pas payé, moi. Tu ne me payes pas, là. Non, si tu veux des porte-parole crédibles, il ne faut pas te payer, là. Moi, tu ne me payes pas, là. Ouais, mais au lab école, vous avez combien? Mais c'est au lab école. J'ai même pas réclamé mon kilométrage, puis mes hôtels, puis ma bouffe, là. Tu as essayé de trouver une facture sur 8 ans de Pierre Lavoie au lab, là. Tu n'en trouves même pas une.
Il n'y en a pas.
C'est un don de soi. Je l'ai fait pour les bonnes raisons. On était au front, les gars. Une réunion par semaine, hein, d'une heure et demie toutes les semaines, plus tout le travail. Mais hier, si on était ensemble, les trois, puis au début, c'est moi qui étais allé chercher Pierre Thibault. C'est moi qui ai parti ça, pour ça. J'étais allé chercher Pierre Thibault, le convaincre d'embarquer. Après ça, une semaine plus tard, j'étais allé chercher Ricardo. C'est OK, là, on était assez solide, assez influent pour influencer la politique, pour qu'il nous donne, qu'il nous fasse confiance. Puis on s'est dit, oh, finalement, on ne se connaissait pas beaucoup au début. Mais on était vraiment complémentaires. On était trois TDAH en passant. Là,
oui.
Mais...
J'ai deux questions avant de faire une courte pause, Pierre Lavoie. La première, vous n'êtes pas tanné de toujours devoir vous battre pour des choses qui sont logiques et qui auraient dû être faites il y a de ça des décennies et des décennies. Vous vous battez tout le temps pour réussir à faire changer les choses. Puis très souvent, c'est en fait la plupart du temps ou tout le temps, c'est tout le temps positif. Vous n'êtes pas tanné de ça, de devoir vous battre, alors que ça devrait être logique de dire « Oh, on reçoit Pierre Lavoie, il nous demande quelque chose, on trouve ça franchement intéressant, on va le mettre en place. » Vous devez tout le temps mener un combat. C'est fatigant, ça.
Ouais, ouais. Ben, je te disais tantôt, je me suis fait les dents avec le dépistage, qui était une première au monde.
Ouais.
On a réussi. Je me suis dit, OK, si on a réussi ça, on va réussir à peu près n'importe quoi. Donc, le mouvement social au Québec, j'avais évalué que ça prendrait 2 générations. Donc, 20 ans. OK? Il fallait d'abord préparer. C'est pour ça que les cubes énergie ont commencé dès le départ, là. Donc, préparons les jeunes. Les écoles, est-ce que vous êtes volontaires? Oui, on est volontaires. On l'a fait pour l'environnement, Pierre. On est prêt à le faire pour les saines habitudes de vie. C'est dans nos... Oui, on est d'accord à passer le message. Les parents chialaient. Les maudits cubes, ils ne comprenaient pas trop. Oui, il faut vous impliquer, votre enfant, parce que quand vous êtes d'accord que les saines habitudes de vie, c'est important pour vous, là, vous allez influencer votre politique après. Là. Votre maire, votre mairesse, vous allez travailler dans une entreprise, peut-être vous allez être directeur de l'usine. Puis là, vous allez dire, non, c'est important de bouger. Donc, on a besoin d'ambassadeurs, de parents qui y croient. Donc, ça allait partir des cubes, tranquillement, contaminés. Et là, on ne savait pas que ça allait être un succès aussi gros. Là. Et là, c'est un phénomène vraiment unique au monde. Là. Et là, donc, là, ça s'est mis à grandir à travers les familles. Et par la suite, les cyclistes, vous autres, on va ramasser des fonds pour les écoles primaires défavorisées. Après ça, ça va être difficile. Là. Comment après ça, faut que je convainque les médecins un jour? Les médecins, il faut que j'aille les chercher parce qu'ils sont dans la première ligne. Donc, dans ma tête, j'avais déjà mon plan de match, OK? En sachant, OK, tout ça, avant de mettre ça en place, qu'on parte, qu'on soit crédible, que les jeunes grandissent, atteignent une adolescence, un peu plus vieux que l'adolescence, adulte. Donc, ils vont arriver. Puis ils vont arriver pour travailler, ils ne comprendront pas comment ça se fait que ici, à l'époque, on ne récupère pas. T'sais. Ah ben oui, on va récupérer, on va s'organiser. Bien, c'est eux, les générations qui avaient été éduquées par les écoles, qui nous ont poussés à l'hiver. Bien, c'est pareil aujourd'hui. Quand je vois la médecin qui me recoue à 26 ans, elle me dit, bon, Pierre, là, regarde, là, maintenant, ils sont devenus enseignantes, ils sont devenus mamans, ils sont devenus médecins. Puis l'avantage de mon mouvement, c'est quoi? Je savais qu'il était axé, était basé sur les femmes. OK? Des cubes énergie, je savais que oui, les pères étaient là, mais c'est surtout la mère qui était d'accord avec ça. La mère est beaucoup plus inclusive, elle est beaucoup plus sensible à la santé. Puis la mère, la femme ne bouge pas pour les mêmes raisons que l'homme. L'homme a toujours bougé pour la performance. La femme bouge surtout pour maintenir son corps en santé. Elle est dans un autre spirit. Puis qui enseigne dans les écoles aux primaires? C'est les femmes. Et qui sont médecins de famille maintenant, première année? Ce sont des femmes. Fait que moi, je suis en business. Puis ces gens-là, sur le terrain, passent un message, influencent une personne à la fois. Et là, ça grandit. Là, tu dis, Pierre, bon, ça fait, là, t'as dit 20 ans. Là. Ça fait combien de temps? 17. Il en manque 3.
Il en manque 3.
Dans 3 ans, je te jure, puis là, je suis patient. Je fais les Ironman. La course, je sais qu'elle dure, elle est longue. Là. Puis là, c'est une étape après l'autre. Puis je me dis, OK, 20 ans, il n'y a rien qui presse. Eux, ils me disent non. C'est pas grave, l'autre côté avance. Puis même s'ils me disent non un jour, il arrivera un employé, il va embaucher un directeur, il va avoir un nouveau employé VP. Puis lui, il fait du marathon, puis il va vouloir instaurer dans l'entreprise. C'est exactement ce qui se produit présentement. J'étais à l'UMQ cette semaine. Puis là, ils ont décidé de faire une course à 6 heures le matin. Là, ils ont décidé, là, je suis allé les voir il y a 5 ans. Ah ouais, là, c'est difficile, là. On pourrait faire une marche. Les maires et le matin pour montrer que vous êtes d'accord avec ça, virement favorable pour vos citoyens. Ouais. Puis là, cette année, ils m'ont appelé, ils disent, Pierre, on organise une course, mais c'est à 6 heures parce qu'eux, ils commencent à 8 heures. 6 heures, tellement de nous, choqués, c'est le bonheur. Je suis arrivé là, ils disent, bon, ils ont fait une invitation au maire. Je suis arrivé le matin, là, il y avait 150 personnes.
Wow.
Je suis tombé à terre. Là, la mairesse de Longueuil était là, le maire de Québec était là. Ils sont venus courir et marcher, ils ont mis la marche aussi. Là, j'ai regardé, OK. Là, on a contaminé le politique, en plus, le municipal. Nos ambassadeurs là, sont en train d'infiltrer le municipal. Là. Puis là, quand on va parler de piste cyclable, il y en a un ou deux qui vont se dire, ah, oui, c'est sûr que ça nous prend ça. Là. Lui, il était dans cette connotation-là. Maintenant, ils sont un peu partout, puis ils influencent les décisions. Parce qu'avant, pourquoi on aurait ça? Mais oui, parce que les jeunes vont aller à l'école à vélo et il y a des citoyens soir qui marchent. Il faut ouvrir nos parcs aux citoyens, l'espace vert. Et là, on a tout un spirit qui change. 20 ans. C'est pour ça. Il faut être patient, il y a le
Oui,
changement.
vous êtes un homme extrêmement patient. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir de jaser avec Pierre Lavoie. C'est le cofondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le soir. Le garage à Dan. Dan Caron a ressorti son jukebox. Histoire de vous pousser des bonnes vieilles tunes. Même du rock qu'on n'entend pas dans la programmation régulière. Le Garage à Dan, tous les vendredis, 18h.
Boulevard 101. À la recherche d'un nouveau nid, pensez au condo locatif Le Charlie, situé près de la rivière Saint-Charles. Cette construction 2023 comprend l'eau chaude et Internet. Visitez lecharlie.ca.
Quel est le point commun entre le Mazda CX-5, le CX-30, la Mazda 3 berline et la Mazda 3 Sport 2025? Ils ont tous été nommés meilleurs choix par Protégez-vous. Oui, Protégez-vous les amis à l'épreuve pour le raffinement, la performance, la sécurité, la fiabilité et bien plus encore. Faites vite, prenez le volant de l'un des meilleurs choix de Protégez-vous et profitez d'un taux de 2,9% au financement à l'achat jusqu'à 36 mois. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Pour que ce soit beau.
Chez Gérard Bourbeau et fils, l'expertise, le souci d'en offrir toujours plus et les conseils de qualité s'acquièrent avec les années. La passion, elle, nous habite depuis 87 ans. Votre centre jardin Gérard Bourbeau et fils, c'est le plus grand choix de végétaux à Québec. Jardinier amateur ou producteur, vous trouverez un grand choix de produits horticoles, tout pour combler vos besoins. En pépinière, plusieurs rosiers, une multitude de grimpantes, d'arbres fruitiers et plus de 1000 variétés de vivaces. Première avenue à Charlebourg, Gérard Bourbeau.com.
Tanner des erreurs dans tes feuilles de temps. Passe à Mobile Punch pour une solution adaptée pour le Québec. Inclus dans les conventions collectives de la construction du Québec. Simple, rapide, efficace. Utilise Mobile Punch pour sauver temps et argent. MobilePunch.com.
Mercado.fm vous présente son nouveau porte-parole. Qu'on paye pas parce que ça roule déjà très bien.
T'as bien raison! Voici les offres!
Obtenez une thermopompe Lennox multizone d'une valeur de 11 845 à 5 923 chez Miville Solutions. Ou encore un chèque cadeau d'une valeur de 500 à 250 chez 1-800-GOT-JUNK.
Si ça vous fait pas aller jeter un coup d'œil sur Mercado.fm, c'est parce que vous avez rien compris!
Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Le homard est fraîchement débarqué chez Yuzu Sushi. Découvrez notre nouvel arrivage. Quatre créations débordantes de saveurs en parfait accord avec votre envie de homard. Les vrais fans seront ravis. Disponible pour un temps limité, Yuzu, c'est toujours bon.
Le 1er juillet approche et vous n'avez toujours pas trouvé de logement. Vous avez cherché partout et vous ne savez plus quoi faire. Vous pouvez compter sur les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation. Ils sont là pour vous accompagner dans vos recherches. Contactez-les sans tarder. En plus, ce service est gratuit. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Marco!
Polo!
Hey, t'as moi ça?
C'est l'événement soif d'été chez McDo. Tu peux avoir un Coca-Cola ou un café glacé petit format pour seulement 1 $ plus taxes. On va s'en chercher un autre?
Ne s'applique pas au café glacé aromatisé dans les McDo participants. Les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
C'est notre plus bas prix annoncé de l'année chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les fraises à 1,88 limite de 4, le beurre à 4,85 limite de 4 et le porc haché maigre à 2,91 $. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Production Optimale, c'est un studio de production vidéo unique sur Pierre-Bertrand à Québec. Le décor change tous les jours selon vos idées et notre concept. Du tournage au montage, nos artisans s'adaptent à votre réalité. Production Optimale, nous travaillons dans l'ombre, vous brillez. Productionoptimale.ca.
Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
Devenez millionnaire chez Desjardins Ford. En mai, faites l'acquisition d'un véhicule neuf et courez la chance de remporter 1 000 000 de points fidélité Ford Pass. Aussi, obtenez le F-150 2025 en financement à partir de 0% jusqu'à 72 mois. Nous avons également plusieurs Mach-E 2024 en liquidation jusqu'à 15 000 de rabais, incluant le programme Roulez Vert.
Un Ford, ça se
branche
chez Desjardins Ford.
102.1, la radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Pierre Lavoie est avec nous ce soir. Pierre Lavoie, merci d'être là, soit dit en passant. Il me restait quelques questions à vous poser, puis là, c'est des questions qui sont quand même très sérieuses. Il vous reste-tu des rêves? Il vous reste-tu des rêves à accomplir?
Oui.
Encore?
Puis des affaires qui sont incertaines. Moi, je rêve, tu sais, de 90 ans.
Oui.
D'aller nager dans un de mes lacs. Pas moi, là, mais... un des lacs du Québec, puisque les lacs nous appartiennent en passant. Les Québécois ne savent pas. Là. Ça appartient pas aux gens riches. Là. L'eau vous appartient. D'aller nager le soir, quand le soleil se couche, puis l'eau est calme. Puis d'avancer dans l'eau. Puis de sentir qu'on est connecté à la nature. Puis qu'on, à toutes ces années où c'était... oui, il y a eu des batailles, mais des grandes réussites. Puis de sentir vraiment que mission accomplie. Mon rêve, c'est de jamais m'arrêter d'influencer. J'ai des modèles, en passant, Guy Rocher, tu sais, qui a eu 101 ans le 21 avril dernier, qui enseigne encore à l'Université de Montréal, qui est encore hyper pertinent, qui l'aide encore à l'Assemblée nationale. C'est un des pères de la Révolution tranquille en 1960.
On parle de sociologue.
Sociologue, oui. Les autres, ces gens-là ont fait une grande différence dans ce qu'on est devenu comme société. Il n'était pas parfait, il dit dans son livre, mais cette volonté de voir changer les choses, puis m'assurer que mon corps, parce que notre cerveau, il est fait pour se creuser la tête toute notre vie. Puis la fin qu'il n'aime pas, c'est arrêter. Donc, je trouve avoir des idées. Et l'important, c'est que ce cerveau est assis sur un corps. Il faut bien s'occuper de notre corps. Puis ça, j'essaie de bien occuper, de m'en occuper. Après, d'être capable de construire un influenceur positif pour... que ces jeunes qui ont fait des cubes, là, ils ont 26, 27, un jour, ils auront 50 ans, 60, ils seront des grands-parents, tu sais, puis on se rendra compte que ce mouvement social-là, il a grandi à travers les générations, puis c'est toi qui l'avais parti à l'époque. Puis je suis pas le seul, là, il y a d'autres filles actives, il y a d'autres organismes là, qui sont extraordinaires, là, puis là, on voit Laurent Duvernay-Tardy qui essaie de s'impliquer aussi. Là. Je trouve tellement ce beau que quand tu as la chance d'être une personnalité, puis tu décides de donner de toi pour dire, oh, je vais le faire pour améliorer la société. C'est ça, c'est mon grand rêve, qu'à 90, je sois capable d'être encore conscient de ça. Puis en nageant dans mon lac, là. Parce que moi, quand je nage, là, c'est là que je relaxe le plus. Là. Je peux pas faire de texto dans le lac en passant. Là. Je suis carrément déconnecté dans l'eau.
Ah, mais pour les gens qui ne savent pas nécessairement bien nager, moi, je comprends pas comment vous réussissez à être à l'aise dans un lac en nageant, parce que honnêtement, essayer de battre des mains en même temps que mes pieds, c'est une... Je l'ai essayé plusieurs fois, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Fait qu'on y va en méthode grenouille, là, comme dans le temps.
Si la grenouille, ça pousse.
Pierre Lavoie, triathlète, spécialiste de l'Ironman et cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est quand, là?
Donc, c'est en juin, là, 12, 13, 14, 15 juin à Québec, cette année.
On
s'en vient. Et on s'est renouvelé, on avait des VR, c'était comme, ben, j'étais plus capable. Il a fallu créer le chaos pour trouver une nouvelle idée, parce que si je n'aurais pas créé le chaos, on ne l'aurait pas trouvé. Ça s'aurait arrêté. Puis le chaos, j'ai voulu le provoquer juste au départ de l'édition pour que tous les cyclistes, en fin de semaine, passent en brainstorming, qu'ils nourrissent en idées. Donc j'avais un immense brainstorming de 1000 cyclistes qui me donnaient des idées. Ah, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Puis celui qui m'a donné le courage de revenir, il m'a dit, Pierre, peu importe ce que tu vas amener comme nouveau concept, on va être là. Et là, je dis, OK, ils sont prêts à accepter des mesures contraignantes. Donc, ils sont passés d'un VR à une tente.
Tout est parfait.
Absolument, tu passes d'une tente à un VR.
Oui.
Et ils ont dit que c'était le concept encore meilleur qu'avant.
Ouais.
Donc, ici, il y a tout le temps des solutions à des problèmes. Celui-là était dur à relever. Là. J'avais aucune idée. Quand je l'ai annoncé, on revenait pas. C'est sûr que les employés étaient choqués. Là. Parce que là, c'était comme, OK, on perd notre job. Mais si on trouve une solution, on va venir. Mais pour l'instant, on n'a pas de solution environnementale. Puis ça nous en prend une parce que la planète est en train de brûler. On ne peut pas être exemplaire au niveau de la santé durable puis être zéro au niveau de l'environnement. Il faut se renouveler. C'est important qu'on se renouvelle.
Ouais. Je pense que le gros défi, c'était de prendre des douches, là, j'imagine. Là. Vous avez réglé ça?
Oui, parce qu'à l'université, sur le campus, on est correct. Là.
Exact.
Sur le site, là, il y avait un village. Hein. On a une épicerie. Avril, montée, là. Une vraie épicerie avril. Ouverte 24 heures sur 24. Tu vas prendre ce que tu veux, puis c'est gratuit. Okay? Ensuite, on a une boulangerie qui prépare les croissants et les baguettes à partir de 1h du matin. Donc, à 4-5 heures du matin, tu vas chercher ton croissant. Nespresso fait du café pour les gens. On avait une zone spa. Donc, les gens, puis on avait des feux, des chaises à Adirondack. Et là, c'est que, waouh, on est dans un village. Ah oui, là, relaxé, là. Avant, on embarquait dans un VR. On se déplaçait dans un autre endroit. Ça polluait. On était en circulation. Là, relaxé, là. Vous avez pédalé, là. Restez dans le village, allez à votre tente, puis socialisez avec les autres, là. Donc, on l'avait vu dans la tête, puis c'était un gros wow. On est super contents.
Ah, ben, je suis content d'entendre ça. Sinon, est-ce qu'on peut, tout comme moi, il y a de quelques années, vous avoir en conférence? Ça existe encore, ces conférences-là? On peut encore avoir comme conférencier pour nos
entreprises? J'en ai développé quelques-unes, là. Parce qu'avant, ce que tu as entendu, c'est le pouvoir d'engagement ou attitude des gagnants.
Exact.
Bon. Là, maintenant, j'ai développé le leadership authentique et humain.
Vous avez pas de cheveux blancs, vous n'en aviez pas dans le temps. Maintenant, on va vous demander c'est quoi votre secret. Là.
Oui, les cadeaux. Non, mais écoute, hier, on va prendre une photo. Okay?
Ouais.
Là, les fondateurs, avec la sous-ministre qui nous avait. Elle était là. Fait que là, on a pris une photo, mais 8 ans plus tard, là, on s'en regarde. Et là, Ricardo, il est rendu blanc. Il avait l'air d'un flow. Là, on regarde, mais Ricardo, ça a pris 30 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais là, lui, il a pris un coup de vieux. Moi, je n'ai pas changé.
Ben non.
Non, c'était tellement beau de voir ça. Là. Mais j'ai oublié ta question.
Les conférences, vous en avez plusieurs maintenant.
Oui, donc, une sur le leadership. Je trouvais ça important. Dis, comment on crée comment on fait ça, là, une affaire comme ça? Ben, c'est une question de leadership. Puis le leadership, il y a plusieurs modèles. Il y a le directif, c'est l'ancien modèle. Là, maintenant, celui qui va chercher l'engagement des gens autour de nous. Donc, les gens qui embarquent dans votre chaloupe, d'abord, et puis qui vont ramer pour vous. Il ne faut jamais oublier qu'on rame d'abord pour le capitaine et ensuite pour la cause. Donc, le leader qui nous dirige, là, c'est lui le plus important. Si c'est un directif, je ne veux pas ramer pour lui. Si c'est un capitaine avec authentique, puis il est humain, je veux ramer pour lui. Et en plus, quand il me parle de sa cause, elle me parle en plus. Donc, je vais faire un bon rameur, peu importe les conditions. Donc, c'est une conférence là, qui parle surtout au leader, là, comment se comporter pour aller chercher l'engagement. J'en ai une autre sur « Êtes-vous vert, jaune ou rouge? » On est vert, on devient jaune, puis on finit rouge. Ça, c'est des données probantes en santé, toutes les statistiques du Québec par rapport aux États-Unis, les pays scandinaves. Et là, on voit que le Québec est bien placé. Mais un des problèmes, c'est que le Québec rentre 8 ans trop tôt dans le système de santé. Donc, retarder la maladie, c'est une conférence vraiment qui fait prendre conscience là, qu'on a tout intérêt à mettre la switch à on. Puis l'autre, c'est créer le mouvement. Comment on crée des mouvements? Moi, je l'ai créé 3 fois là, ma vie. Là. 3 fois, il a fallu que je crée un mouvement pour faire avancer la cause. Puis j'explique. Le modus operandi. C'est un modus operandi. Là, je suis en train d'appliquer la même méthode que j'avais fait chez nous pour le dépistage. Là, je suis en train de l'appliquer pour l'autre. Puis, j'explique un peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pour ceux qui ont, des fois, ils veulent faire tourner une organisation ou ils veulent amener quelque chose d'une société, puis rallier les gens derrière leur mission, ben, j'explique le modus operandi.
Puis pour vous rejoindre, si on est chef d'entreprise puis on veut ce type de conférence-là, on va directement sur le grand défi Pierre Lavoie?
Non, conférence Pierre Lavoie.
Conférence Pierre Lavoie, tout simplement.
Ouais, c'est simple. Celui qui répond, c'est moi. C'est simple, c'est direct.
C'est...
parler au cheval, directement au cheval.
Exact, directement au cheval. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Pierre Lavoie, ça a été un plaisir de jaser avec vous pendant 60 minutes. Bon, moi, je vous ai vu en conférence il y a de ça quelques années, puis j'espère retourner vous voir en conférence prochainement. J'avais appliqué des choses dans ma vie qui m'avaient grandement aidé, puis je pense que vous êtes responsable de ça, puisque vous avez été initiateur de ça.
Ben, t'es gentil. J'apprécie beaucoup.
Ah, vous, j'y suis pour rien. Je ne suis pas gentil, je vous dis la vérité. Salut Pierre Lavoie.
Hey, merci. C'est agréable. Bye-bye.
Passez tous une excellente soirée.
Marceau le soir.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Visitez deco-rampe.com.
Le Tiguan 2025 redessiné est finalement arrivé chez Desjardins Volkswagen. Venez l'essayer dès cette semaine. Plus puissant, plus élégant, avec des paiements encore plus bas que le modèle 2024.